Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Cette année, l'Union européenne a choisi de mettre en avant le train en désignant 2021 comme l'année européenne du rail. Le train, comme les autres modes de transport, est encadré par des politiques européennes qui contribuent depuis 1957 à la mise en place d'un espace européen sans frontières dans lequel les personnes et les marchandises peuvent circuler sans entrave. Le transport, c'est aussi le deuxième poste de dépense des ménages européens. Le transport contribue à 5% du PIB européen et emploie directement quelque 10 millions de personnes. Le transport, c'est aussi un quart de nos émissions de gaz à effet de serre et un tiers de l'énergie finale totale consommée au sein de l'Union européenne, la majeure partie de cette énergie provenant encore du pétrole. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée aux enjeux, notamment environnementaux, autour des transports en Europe avec le député européen Dominique Riquet. Bonjour Monsieur Riquet.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Merci d'être avec nous. Alors Monsieur Riquet, vous êtes valenciennois, centriste et toujours et très proche de Jean-Louis Borloo. Vous siégez au Parlement européen au sein du groupe Renew, dont vous êtes le vice-président. Vous êtes également député européen depuis 2009 et au cours de vos trois derniers mandats, vous siégez au sein de la Commission des transports dont vous êtes un spécialiste. J'aimerais vous poser une première question un petit peu pour placer la question des transports et savoir un petit peu qu'est-ce qui différencie les transports européens des transports des autres grandes puissances type les États-Unis, la Chine, le Japon. Quelles sont les particularités du transport européen ?
Le transport européen, il a, je dirais, plusieurs particularités. La première, c'est quand vous parlez de la Chine ou des États-Unis, vous avez affaire à des puissances fédérales ou centralisées. Alors qu'en Europe, vous avez affaire à 27 États membres, donc qui ont leurs propres régulations, leurs propres normes, leurs propres contrôles. Donc par définition, vous avez un espace de transport qui est plus fragmenté. Mais à contrario, vous avez en Europe la plus ancienne infrastructure de transport en route, en chemin de fer, voire même en aéroport, et probablement la plus grande densité dans le monde. Donc c'est à la fois très dense, mais ça n'est pas centralisé. Voilà, c'est les deux caractéristiques finalement du transport en Europe.
Alors, comme je le disais en introduction, il y a une politique des transports européenne qui est assez ancienne, mais il y a aussi un vocabulaire, je dirais, sur cette thématique qui est assez complexe pour, je dirais, des non-initiés. Alors j'aurais voulu un petit peu comme un professeur qui expliquerait certains mots de vocabulaire, vous poser quelques mots et nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle du paquet ferroviaire, je sais que c'est des questions que vous connaissez bien, il n'y a pas de piège. Quand on parle du paquet ferroviaire, par exemple, et là, le quatrième paquet ferroviaire, il s'agit de quoi exactement ?
Alors, il s'agit d'un ensemble de réglementations, c'est-à-dire de nature différente, mais qui concernent tous, dans le cas présent, le chemin de fer, qui peuvent être des réglementations techniques sur l'homologation des matériels, la sécurité, la normalisation d'un certain nombre de sujets à travers l'Europe, par exemple bon, les écartements, les signaux de sécurité, passage à niveau, bref. Mais aussi, d'autre part, un paquet législatif politique sur la manière dont les opérateurs de transport ferroviaire sont autorisés à fonctionner, l'ouverture à la concurrence, les rapports entre les opérateurs de réseau et les opérateurs de transport. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement vaste, ça couvre des aspects différents. Un seul point commun, le ferroviaire, des aspects différents, donc des régulations différentes, d'où le nom de paquet.
Ah, il y a un deuxième terme qui vient, qui est aussi souvent une appréciation, qui s'appelle RTE, ou réseau de transport européen. De quoi il s'agit là, cette fois-ci ?
Alors, les réseaux de transport européens visent justement à pallier à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la fragmentation des réseaux. Le fait que, par exemple, en France, vous pouvez voyager de manière assez dense sur un réseau routier qui est très important, sur un réseau ferroviaire qui est ancien et assez dense. Mais si vous essayez de changer de pays, vous allez voir que c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, hormis quelques franchises internationales. Donc, l'Europe a défini 9 grands réseaux multimodaux, c'est-à-dire sur le même axe de transport, vous avez tous les modes de transport possibles, hein, fluvial éventuellement, mais routier, ferroviaire, éventuellement les aéroports. Donc ces grands réseaux qui peuvent être nord-sud ou est-ouest, par exemple vous avez un réseau nord-méditerranée qui passe par la vallée du Rhône et le Rhin, bon, dans lequel on essaye d'établir un réseau continu des infrastructures qui permettent de fonctionner à une échelle européenne et non plus fragmentée à une échelle nationale. Donc ces RTET, ces grands réseaux transeuropéens de transport, comprennent donc à la fois ce réseau principal, ces 9 grands axes, et également des réseaux dits secondaires qui visent au même but, mais pour des axes qui apparaissent comme moins essentiels que les 9 principaux.
Voilà. Alors, je terminerai, hein, on va pas faire l'émission comme ça. Il y a encore un terme, mais là, je sais que vous le connaissez encore mieux. C'est le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Hein. C'est un sujet sur lequel vous avez été co-rapporteur. De quoi, cette fois-ci, il s'agit lorsqu'on entend mécanisme pour l'interconnexion en Europe?
Alors, c'est un fonds financier qui est doté d'environ une 48 milliards d'euros sur la durée du budget et qui sert à financer à co-financer les grandes infrastructures de transport en Europe, notamment celles qui correspondent au réseau transeuropéen que vous avez évoqué juste avant. C'est-à-dire on aide les États membres et les régions à financer, parce que souvent ces infrastructures ferroviaires, routières ou autres sont extrêmement coûteuses. Donc c'est un fonds de crédit européen pour financer les infrastructures sur les grands réseaux.
Alors, maintenant qu'on a un petit peu ce vocabulaire, on va rentrer un peu cette fois-ci dans les objectifs et un petit peu ce que l'Union européenne fait en matière de transport par rapport aux questions environnementales. Alors les transports constituent le seul secteur hein, ayant augmenté sa proportion d'émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, passant de 15 à 25%, donc ça a augmenté, alors que dans les autres secteurs et industries, cela a baissé. Comment vous expliquez que finalement le transport pollue encore autant, ou en tout cas émet autant de gaz à effet de serre?
Ben, il y a un double effet, hein, l'effet qui se coule. D'abord parce que le principal secteur émetteur avec en face de nous, qui était l'industrie, a sensiblement amélioré sa performance. Donc si ça baisse d'un côté, ça monte de l'autre, hein, c'est un phénomène mécanique. Puis, deuxièmement et surtout parce que le transport a connu un développement absolument exponentiel dans tous ses modes, parce que les gens se déplacent de plus en plus, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, et parce que les marchandises voyagent de plus en plus. Donc en fait, c'est pas parce qu'on a dégradé le mode environnemental de transport, c'est parce qu'on transporte beaucoup plus de tout, des gens et des marchandises.
Alors, les transports européens sont évidemment concernés par les efforts environnementaux, hein, l'Union européenne, dans le pacte vert hein, qu'on appelle le fameux Green Deal. D'ici à 2050, la Commission européenne, au travers donc, de ce pacte, s'est ainsi donné pour objectif de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre issues des transports européens par rapport aux années 90, et donc de parvenir à cette neutralité carbone. Quels sont les objectifs les objectifs, on vient de les donner, mais les mesures prises pour parvenir à ces objectifs? Quelles sont les mesures phares?
Voilà. Alors, les mesures visent à diminuer les émissions mode par mode. Pour le ferroviaire, en supprimant tout ce qui est énergie fossile et en faisant en sorte que l'électricité consommée par le ferroviaire soit d'origine renouvelable, propre. En ce qui concerne le routier, eh bien, ça va être de passer du thermique qui fonctionne sur des énergies fossiles vers l'électrique, qui fonctionne sur des énergies renouvelables, donc de tendre vers une émission zéro. Et pour les avions, plus difficile, bon, qui font que 2,5% des émissions, mais plus difficile, eh bien, à la fois d'améliorer, ce qui est le cas, puisqu'on a amélioré depuis 20 ans de 50% la performance des moteurs, mais on a tellement augmenté le nombre de gens qui prennent l'avion, effectivement, bon, ça a quand même augmenté. On a amélioré la performance, mais on a terriblement augmenté le nombre. Donc là, c'est d'essayer de trouver à la fois des biofuels pour remplacer le kérosène fossile et à terme, peut-être, de faire voler des avions électriques. Mais ça, on n'est quand même pas encore tout à fait à proximité. Et en ce qui concerne le transport maritime, eh bien, là, éliminer les fuels lourds, elle passait probablement une transition par le gaz, le LNG, et ensuite, si c'est possible, sur ou des biogaz ou de l'énergie électrique. Donc finalement, et au total, pour tous les modes, essayer de passer de modes fossiles à des modes renouvelables non émetteurs. Et également, et dans le même temps, de passer en transmodal des modes les plus émetteurs, par exemple l'aviation ou le routier, vers le ferroviaire qui est moins émetteur. Donc qui à la fois améliorer tous les modes pour les amener à une émission zéro, et deuxièmement, en attendant, essayer de faire du transfert modal vers les modes les moins émetteurs.
Alors on va faire une petite pause musicale. On propose régulièrement ou même habituellement à nos invités de choisir le titre ou la musique qu'ils souhaiteraient faire écouter, faire partager à nos auditeurs. Alors ça peut avoir un lien avec l'émission ou pas. Quel est le titre, quel musical que vous avez choisi de nous faire écouter, monsieur Riquet?
Ben, vous savez, nous, on aime beaucoup le train, c'est l'année du rail, et en même temps, c'était un petit clin d'œil, parce que je crois que c'est un titre que plus personne ne connaît. C'est André Claveau, un chanteur à voix des années 50, qui a disparu de la mémoire collective et qui chantait sur le train.
Un petit train s'en va dans la campagne. Un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne. Chichifou, chichifou, plein d'entrain. Dans les prés, il y a toujours des vaches. Étonnés de voir encore passer ce petit train qui lâche des panaches. Chichifou, chichifou, de fumée. La garde-barrière agite son drapeau rouge pour dire bon voyage aux vieux mécaniciens. Mais dans les wagons, nul voyageur ne bouge, car ils prennent tous le car et le train ne sert à rien. Le petit train qui veut croire au miracle, l'air de rien s'en va en sifflotant. Et les veaux, admirant le spectacle, tchitchifou, tchitchifou, sont contents. Hélas, il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré de donner tant d'argent pour qu'un petit train aille se promener. Alors ils lui ont dit, cette fois c'est bien fini, profites-en, c'est ta dernière sortie. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne, chichifou, chichifou, plein d'entrain. Il revoit les champs et les rivières et les bois qui sentent bon l'été. Il revoit toutes les humbles chaumières, chichifou, chichifou, dans les prés. Le train ralentit près de la gare barrière et le mécanicien la salue de la main. Elle voit le feu rouge du wagon arrière qui s'éloigne doucement et se perd dans le lointain. Le petit train a perdu la bataille, c'est la fin de ses belles flâneries. Il s'en va vers le tas de ferraille, chichifou, chichifou, c'est fini. Mais plus tard, lassé des grands voyages, nous penserons souvent au petit train qui flânait parmi les verts bocages. Nous le regretterons bien.
Alors merci monsieur Riquet pour cet extrait musical qui nous rappelle à tous des souvenirs et des queuleuleux aussi. Alors je reviens à une autre question pour un petit peu avancer, mais on va continuer avec le train. Donc, le train est le mode de transport le moins émetteur de gaz à effet de serre. Pourtant, il souffre quand même il souffre quand même d'un manque d'attractivité. Par exemple, il n'est que utilisé par 17% en moyenne. C'est le fret ferroviaire, par exemple, n'est utilisé que 17% en moyenne au sein de l'Union européenne. Comment vous expliquez finalement ce manque d'attractivité du train et que peut-on faire pour le rendre plus attractif?
Le manque d'attractivité du train pour le fret, ça tient au fait que la performance routière, elle est meilleure. C'est-à-dire que quand vous chargez un produit dans un camion, vous pouvez le charger du premier au dernier kilomètre pour un coût qui est relativement faible parce que pour l'instant le transport routier ne paye pas ses externalités alors que le train les paye. C'est-à-dire que le fait que la route utilise des infrastructures publiques qui sont la plupart du temps non payantes, hein, les autoroutes concédées sont quand même relativement rares en Europe, donc vous circulez sur un axe gratuit, dans un système dans lequel, pour l'instant, vous n'êtes pas trop pénalisé pour vos émissions et avec une très grande fluidité. Alors là, c'est vrai qu'il y a un avantage pour le transport routier par rapport au ferroviaire pour le fret, hormis pour les transports massifiés ou l'ultra-lourd, dans lequel on retrouve une activité de fret parce que là, la route ne convient pas. Mais sinon, effectivement, pour l'instant, il y a un avantage concurrentiel qui conviendra de diminuer, premièrement, probablement en faisant envisager à la route de prendre en charge ses externalités, c'est-à-dire de payer ce qu'elle coûte vraiment, notamment au niveau des infrastructures, et deuxièmement, en améliorant la performance du rail. Pour les passagers, je dirais le problème de la liberté, de la fluidité, de l'attrait de la voiture, qui elle-même ne répond pas comme le transport des marchandises, elle ne paye pas vraiment ses frais, hein, malgré l'assise sur les carburants, on est loin de payer les frais d'infrastructure. Mais le transport ferroviaire, je dirais, de proximité en TER, TET ou RER, est quand même largement plébiscité pour les déplacements du quotidien, mais il est subventionné également. En revanche, le reproche que l'on peut faire au transport à grande vitesse, qui lui est dans une logique commerciale pure, c'est effectivement son coût, qui, dans certains cas, lorsqu'on est à plusieurs, ne le rend pas très compétitif. Bon. Il nous appartient de rendre le transport ferroviaire des personnes plus attractif, en améliorant le service, en améliorant le confort, et en essayant d'améliorer les politiques commerciales. Il faut quand même redire que c'est un transport rapide qui est le transport le plus sûr et qui est aussi le transport qui est sur le plan environnemental le plus recommandable. Donc il y a une responsabilité sociétale qui est importante à ce niveau et qu'il faut défendre le transport ferroviaire.
C'est un peu ce qui est souhaité par cette année européenne du train ou du rail. La Commission européenne a élaboré une stratégie qu'on appelle pour une mobilité durable et intelligente. Dans cette stratégie, on parle beaucoup du numérique aussi. Quel est le lien entre le numérique et les transports ?
Il y a un double lien. Il y a un lien d'abord sur les moyens de transport parce que vous allez considérablement améliorer la sécurité et les performances des moyens de transport routiers, aériens, maritimes ou ferroviaires avec le numérique. Hein. Par exemple, je peux prendre l'exemple du train, mais c'est vrai pour la voiture, le train autonome. Deuxièmement, très grande amélioration de la sécurité du signal système. Donc une amélioration de la densité de circulation. Et si vous pouvez faire circuler plus de trains à intervalles plus rapprochés dans des conditions plus sûres, vous améliorez votre rentabilité. Plus de trains, c'est aussi un meilleur service, mais on pourrait dire que le numérique améliore aussi sensiblement la voiture. Quand vous montez dans une voiture actuellement, le numérique embarqué dans une voiture de bas de gamme, il est supérieur à celui de la mission Apollo, quoi. Donc vous voyez le progrès. Bon, les mécanismes de sécurité jusqu'à le véhicule autonome. Bon, et on pourrait dire évidemment la même chose pour l'avion ou le bateau. Donc d'abord, le numérique appliqué aux moyens de transport, c'est un moyen de les améliorer considérablement sur le plan du confort, de la sécurité, de la rapidité et du service rendu. Ensuite, deuxièmement, c'est le numérique appliqué à la circulation même des différents moyens de transport. C'est-à-dire comment vous optimisez la circulation. Bon, bah, tout le monde connaît les logiciels de circulation. Comment vous mettez à disposition par voie numérique tout ce qui est la billettique pour optimiser votre circulation de bout en bout. Par exemple, comment vous pouvez trouver un vélo à louer pour aller à la gare, puis les meilleurs billets à la gare pour retrouver votre destination, puis à votre destination encore un vélo ou une trottinette. Il y a maintenant des logiciels numériques qui permettent d'optimiser ça et qui permettent aussi d'optimiser les flux de circulation pour éviter les congestions, les encombrements ou les pics d'émissions. Alors c'est vrai pour tous les modes. Et puis vos propres data, comment doivent-ils être sécurisés? Et puis enfin le numérique dans la localisation et la sécurité des différents mobiles transportés, que ce soit les personnes et les gens. Donc en fait, le numérique est absolument partout. Il améliore à la fois la performance de transport, la performance environnementale, la performance de sécurité, le confort, enfin bref, voilà quoi. La liste serait trop longue, mais on est dans le numérique partout.
Alors, je pensais aussi à une chose en vous entendant parler. On parle souvent donc de 2050 et de cette donc neutralité climatique globale, mais aussi du transport. Si vous deviez présenter à un jeune de 15 ans aujourd'hui et lui expliquer comment il se déplacera sans émettre de CO2 en 2050, que lui diriez-vous ? Parce que ça paraît tellement surprenant. Alors, on imagine bien sûr des voitures électriques, voilà. Mais on peut. Je me souviens d'un film comme celui de Luc Besson. On avait des taxis volants, etc. Est-ce qu'on peut rêver d'un mode de transport totalement différent d'ici 2050 ?
Alors, je pense que oui. Je pense que la première chose, d'abord, c'est est-ce qu'on se déplacera autant et pour les mêmes raisons ? Parce qu'on parlait du numérique tout à l'heure, mais bon, la crise Covid, par exemple, avec l'apparition massive du télétravail, du click and collect, du téléachat, c'est quelque chose qui a considérablement changé nos manières de se déplacer et je pense que c'est pas fini. Deuxièmement, les capacités collectives de se déplacer avec des moyens qui peuvent être le véhicule autonome par exemple, mais aussi des moyens télépilotés qui soient cadencés, qui peuvent être extrêmement pratiques et confortables en ville, avec peut-être aussi des interdictions pour les véhicules particuliers, avec l'amélioration de performance de certains moyens comme l'hyperloop. Les taxis volants électriques, peut-être, enfin, encore que ça posera d'autres problèmes, qui ne sont pas des problèmes d'émissions, mais des problèmes de circulation, mais je pense que, oui, les choses vont changer considérablement. C'est-à-dire que on se déplacera plus pour les mêmes motifs, on se déplacera plus avec la même densité de besoins. Il y a beaucoup de choses qui seront faites de manière virtuelle, donc ça va déjà peser énormément. En revanche, probablement que les gens auront des habitudes de déplacement pour des raisons familiales, de loisirs, qui seront plus faciles. Mais encore que je peux communiquer avec mes petits-enfants ou avec mes enfants par d'autres moyens que le déplacement physique. Donc oui, il y aura des motivations, des moyens alternatifs au déplacement physique qui vont déjà changer beaucoup les choses. Et puis il y aura effectivement un changement complet des moyens de déplacement parce qu'on ira, je pense, plus vers des moyens collectifs moins émetteurs. Il y aura probablement moins de déplacements dans des modules individuels que l'on possédera soi-même, parce que la possession d'une voiture ou d'un mobile de déplacement sera la même. Donc je pense que tout ça va changer considérablement, c'est en train de changer considérablement.
Bah merci Monsieur Riquet pour toutes ces observations et aussi pour nous envoyer un peu plus loin, parce que c'est vrai que quand on voit des objectifs en chiffres, on a du mal à conceptualiser des fois ce que ça va donner concrètement. Mais donc merci pour nous avoir consacré ce temps et nous avoir éclairé sur cette politique européenne des transports et notamment dans ces enjeux climatiques et environnementaux.
Merci beaucoup
Monsieur Riquet. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.